Bonsoir, bienvenue à ce mardi d'éthique publique consacré aux états généraux de la bioéthique. Bienvenue à vous qui avez bravé la neige pour venir nous rejoindre au Centre Sèvres à Paris. Bienvenue à nos amis qui nous écoutent en direct dans différentes villes de France, de province, d'Europe et même du Proche-Orient. Bienvenue en particulier à nos amis de Marseille et au père Pierre de Charentenay qui les a rassemblés et qui nous rejoignent pour la première fois ce soir. Bonsoir aussi aux auditeurs de RCF qui peuvent écouter la retransmission de cette soirée. Alors cette soirée est donc consacrée aux états généraux de la bioéthique, quels enjeux. Elle va être animée par le professeur Jean-Noël Fissinger, professeur émérite de médecine, membre de l'Académie de médecine, à qui je vais très vite céder la parole pour qu'il vous présente nos intervenants. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer avec une soirée stimulante sur un sujet qui manifestement vous a beaucoup mobilisé. Je passe d'emblée la parole au professeur Fissinger.
Bien, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir mon ami le professeur Jean-François Mattei, qui est le président du comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine et qui a accepté de venir avec le père Bruno Sainteau, que je connais depuis très longtemps puisqu'il a été responsable du centre des étudiants en médecine, l'ANEC, auquel j'étais président de l'association des anciens à ce moment-là. Donc je pense que tout le monde connaît le professeur Mattei. Je vais quand même dire que d'abord c'est un médecin et un pédiatre. C'est quand même essentiel. Nous avons la chance d'avoir un professeur de pédiatrie qui a inventé la génétique, et c'est important dans ce débat qui s'ouvre. C'est certes un clinicien, mais il nous le dira peut-être tout à l'heure, après avoir été pédiatre à la Timone, il s'est orienté vers la génétique, et si la génétique est devenue une spécialité en France, c'est grâce à lui, c'est lui qui a obtenu, du fait de ses engagements au niveau des ministères, d'obtenir que cette spécialité qui est devenue essentielle, qui vous paraît aujourd'hui évidente, soit reconnue comme une spécialité à part entière. Alors effectivement, maintenant, il a été député de 1989 à 2002. Tu as été ministre de la Santé, président de la Croix-Rouge française, et maintenant, effectivement, membre de l'Académie nationale de médecine, tu présides le comité d'éthique. Merci de m'avoir fait l'amitié d'accepter de rester ce soir plutôt que de repartir à Marseille où il fait peut-être beau, mais je n'en suis pas absolument sûr, et d'avoir bravé la neige qui sépare l'Académie de médecine de la rue de Sèvres. Bruno Sainteau, je pense que la longue amitié que nous avons depuis je ne sais plus combien de temps, mais très longtemps, le père Bruno Sainteau a donc succédé au père Patrick Verspiren comme responsable du département d'éthique biomédicale. Et il y a 3 ans ou 4 ans, il m'a demandé de faire un petit groupe autour de lui pour l'aider à réfléchir sur des questions de médecine, puisque la société était très interrogée sur ces sujets. Et donc avec Pierre Corvol, Joël Ménard, Alain Tenaillon et Jean Pic, nous avons fait, d'autres nous ont rejoints depuis, en particulier des femmes pour la parité. Nous avons créé un petit groupe et c'est ce que ce groupe a décidé de ce soir, de vous proposer une réflexion sur les enjeux des états généraux de la bioéthique. Alors juste avant de passer la parole au professeur Mattei, je voudrais un peu refaire l'historique d'ailleurs qu'il connaît beaucoup mieux que moi, puisque en 1994, il a présenté devant le Parlement les premières lois de bioéthique. Et fort justement, il avait obtenu à l'époque que ça ne soit pas des lois de bioéthique, mais des lois dites de bioéthique. Il était prévu à l'époque de réviser ces lois toutes les 7 ans. La révision n'a eu lieu qu'en 2004, c'est encore toi qui l'as menée, avec une 4e loi dite de bioéthique. Depuis, les délais ont été mieux respectés, puisqu'après 2004, on est à une révision des lois de bioéthique de 2011. Nous sommes en 2018, et par conséquent, les lois de bioéthique doivent être révisées, et on peut discuter, Jean-François en parlera, de cette invention de réviser des lois. En fait, ces états généraux de la bioéthique, c'est le gouvernement qui a demandé au professeur Delfrécy, président du comité consultatif national d'éthique, d'organiser des états généraux pour donner aux législateurs des arguments ou des sujets pour légiférer sur les lois de bioéthique. Donc ces états généraux, c'est la préparation d'un rapport qui va être remis aux parlementaires et qui servira à définir quel sujet on va aborder et quelle réponse on va tenter de donner dans la loi. En sachant bien que si Jean-François Delfraissy, lorsqu'il l'a présenté l'ouverture des états généraux le 18 janvier, il a bien spécifié qu'il y avait deux éléments. Premièrement, on devait prendre en compte les progrès de la médecine. 7 ans se sont écoulés et certaines techniques, ce progrès technique, viennent révolutionner ou poser de nouvelles questions éthiques. C'est ainsi, par exemple, que tout ce qui concerne le génome, vous le savez, le séquençage rapide, le problème du diagnostic néonatal et les modifications du génome avec une nouvelle technique qui est apparue depuis 2 ans n'existaient pas en 2011. Il est bon que l'on réfléchisse sur ce sujet qui parte du génome pour aller au transhumanisme. Et puis, mais c'est important, il y a un deuxième volet à cette réflexion qui nous est demandée, les modifications sociétales. Comment la société française a évolué sur un certain nombre de sujets. Et ce deuxième sujet, n'est pas lié ou partiellement seulement à des progrès techniques, mais c'est effectivement que les opinions de nos concitoyens peuvent avoir évolué en fonction des évolutions de la société. Alors comment vont s'organiser ces états généraux de la bioéthique? Eh bien, c'est une fusée à 3 étages. Le premier étage vous concerne tous, vous, citoyens français. Le Comité consultatif national d'éthique veut recueillir vos opinions sur quel sujet traiter et comment vous pensez qu'il faut y apporter des réponses. Alors, pour ce questionnement citoyen, vous avez deux possibilités. Premièrement, un site internet qui va être mis en ligne à la fin du mois. Ce site internet, c'est... C'est compliqué, oui. États généraux de la loi de bioéthique, tout ça, c'est... États généraux, c'est... loi de bioéthique, tout est lié. .fr. Alors, HTTPS, W, ouais. Mais États généraux de la bioéthique, donc vous avez un site, vous pouvez aller sur le site, donner votre opinion. Il me semble que telle question doit être traitée prioritairement, ou au contraire, sur telle question, je pense aussi. Toujours au niveau des citoyens, vous savez que dans la province, il existe des espaces éthiques régionaux. Ces espaces éthiques régionaux vont se réunissent déjà pour certains d'entre eux et choisissent tel ou tel sujet pour en réfléchir ensemble et proposer au Comité consultatif national d'éthique le point de vue de l'espace régional d'éthique de ta région, de Normandie. Bref, ça c'est au niveau des citoyens. Premièrement, une ligne internet. Deuxièmement, des états généraux des citoyens. Et les états généraux peuvent auditionner des lycéens, des étudiants, des personnes âgées, bref, tous les membres de la société. Deuxième étage de la fusée, le Comité consultatif national d'éthique va auditionner directement un certain nombre d'associations, d'organisations professionnelles, de sociétés savantes qui vont aller devant le Comité consultatif d'éthique présenter leur opinion sur les évolutions, sur les sujets à traiter. Et parallèlement, en novembre, le professeur Delfraissy a convoqué tous les comités d'éthique des différentes sociétés savantes. Alors, tout le monde n'était peut-être pas là, mais pour y avoir été, on était très nombreux. Le comité d'éthique, l'Académie nationale de médecine, bien sûr, mais l'Académie des sciences, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, bref, des tas, tous les organismes publics qui avaient un comité d'éthique sont allés à cette réunion et ont pour mission de rédiger chacun un rapport pour le CCNE qui dira « je voudrais qu'on traite tel sujet » et au contraire, ce sujet-là ne me paraît pas d'actualité. Enfin, troisième étape, et peut-être pas la plus facile, une conférence citoyenne. La conférence citoyenne, ça consiste à prendre au hasard, par tirage au sort avec un institut de sondage, des citoyens censés représenter l'ensemble de la société française. Alors, d'après le rapport ou d'après Delfraissy, il y aura 20 bienheureux qui seront tirés au sort. Et ces 20 citoyens qui vous représentent tous, eh bien, seront censés suivre les travaux, suivre les rapports qui seront transmis progressivement, et puis établir un rapport eux-mêmes, rapport spécifique de cette conférence citoyenne, qui s'ajoutera à tous les documents qui ont été donnés au Comité consultatif national d'éthique. Tout ceci, et c'est important, doit être terminé en mai. Or, nous sommes déjà en février, puisqu'en juin, le rapport rédigé par le Comité consultatif national d'éthique sera remis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, puis les états généraux seront clôturés, annoncés en présence du président de la République. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, puisque je pense qu'en août il ne se passera rien, à partir du mois de septembre, le gouvernement va préparer un projet de loi qui sera présenté pour être voté dans les assemblées, soit à la fin de l'année, soit plus probablement en début de l'année 2019. Alors avant de céder la parole au professeur Mattei, je voudrais vous dire simplement deux choses. Premièrement, vous êtes tous concernés. Il ne suffit pas de lire le journal pour voir ce qui va se passer. Vous avez la possibilité d'intervenir, que ce soit par le site internet, que ce soit par des espaces régionaux d'éthique, que ce soit par les sociétés auxquelles vous appartenez, les associations savantes, ou que sais-je. Donc il y a une possibilité, et même à mon sens une obligation, que vous interveniez dans ce débat. Et deuxièmement, il y a urgence. Ne prenez pas 6 mois pour réfléchir. Dans 6 mois, ça sera passé. Il vous restera les larmes pour pleurer en disant ils ont pris une mauvaise décision, mais moi je suis resté chez moi sans me manifester. Il y a donc une obligation morale, à mon sens, d'intervenir, et il y a une urgence à intervenir. Jean-François, je te cède la parole.
Bien, merci beaucoup de m'accueillir au Centre Sèvres. Je dois vous dire que je suis très heureux, naturellement, de me trouver parmi vous, répondant à l'invitation personnelle de Jean-Noël Fissinger, parce que le sujet ne m'a pas quitté depuis le début des années 90 et même avant dans ma pratique médicale et génétique. Au-delà des points de discussion, voire des réserves que l'on peut formuler sur la stratégie de ces états généraux, je veux souligner combien il est important d'échanger avec les citoyens pour mieux comprendre les évolutions, les ancrages de l'opinion publique dans notre société. Et donc, je me réjouis de notre réunion et remercie encore une fois le Centre Sèvres de l'avoir organisé autour du père Bruno Santo. En effet, les enjeux de ces états généraux sont des enjeux de société. Ce sont des enjeux majeurs, avec différents niveaux de réflexion et de décision. Et j'en vois au moins 3. Un enjeu international, un enjeu national et un enjeu pour les consciences. Alors, je cite l'enjeu international en premier, ce qui peut évidemment surprendre. Mais si la France veut participer aux discussions, aux négociations internationales sur l'éthique appliquée à la biologie et à la médecine, il lui faut afficher ses propres choix et les argumenter. Je l'ai compris en 1993, chargé par le Premier ministre d'alors de faire le rapport préliminaire aux lois de 1994, je l'ai compris lorsque la commission de Bruxelles voulait introduire le sang et ses dérivés dans les termes économiques du marché, alors que la France affirmait tout au contraire la gratuité du sang, de ses dérivés, mais aussi de tout ou partie ou produit du corps humain. Et à Bruxelles, il me fut opposé que la France, n'ayant pas de législation sur la bioéthique, elle n'avait pas de conviction à faire valoir et encore moins à vouloir imposer. Je me suis alors préoccupé de connaître la situation de nos principaux voisins que je suis allé rencontrer. La Grande-Bretagne affichait son pragmatisme et sa conception utilitariste de l'éthique. On ne touche pas à l'embryon. Mais l'embryon commence au 14e jour. Avant, c'est un pré-embryon dont on fait ce qu'on veut. J'ai compris que ça ne serait pas probablement notre repère. Je suis donc allé en Allemagne. J'ai trouvé une Allemagne très restrictive, interdisant tout. Une Allemagne qui demeurait hantée par le passé de la médecine nazie et de ses expériences sur l'homme. Et elle redoutait d'être accusée de recommencer en autorisant telle ou telle technique. Je suis allé en Espagne en me disant « là, je vais être dans un pays latin ». Et à l'inverse, je suis tombé dans un pays qui se déclarait très permissif. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit « mais nous voulons maintenant profiter de toutes ces libertés après les longues années contraignantes du franquisme ». Bon. Alors je suis allé en Italie et là on m'a bien fait comprendre qu'il fallait surtout rien faire, on voulait pas de conflit avec le Vatican. Et je pourrais évidemment poursuivre d'autres visites que j'ai réalisées. Et toutes ces différences, je ne vais pas plus loin parce que le temps est compté, mais elles sont réelles. Et elles révèlent ce que j'appelle une éthique à géographie variable sur de très nombreux sujets et sans aucune logique apparente. Je reviens sur l'Espagne, par exemple. Je vous ai dit très permissive. Eh bien, elle interdit la gestation pour autrui. La Belgique, très ouverte sur presque tous les sujets, y compris la fin de vie, la procréation, bref. Pourtant, elle n'a pas autorisé l'accouchement sous X, laissant les femmes belges qui le désiraient venir accoucher ou dans les maternités de Lille. Il est jusqu'à la transplantation d'organes qui reste controversée sur des points majeurs, comme la définition de la mort et le consentement présumé. Après 2 ans de travaux que je coordonnais au Conseil de l'Europe, il n'a pas été possible d'obtenir un accord. Et donc, dans la recommandation, on a dit « la mort ayant été constatée selon les critères nationaux » pour bien montrer qu'on n'avait pas un accord. Alors, eu égard à ces différences, je n'imagine pas que la France puisse accepter une sorte de plus petit commun dénominateur éthique qui correspondrait à un nivellement par le bas. J'entends bien les arguments du tourisme procréatif, selon l'expression même du bébétalis. J'entends bien aussi l'argument du tourisme de fin de vie. Mais mon sentiment est que ce n'est pas parce que tel ou tel pays autorise telle ou telle pratique que nous sommes dispensés d'un examen critique et d'une prise de décision qui nous soit propre. Faudrait-il que nous suivions aveuglément la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui autorisent le recours aux ciseaux génétiques auxquels tu faisais allusion, Jean-Noël, pour tenter de modifier l'embryon, alors que la prudence voudrait qu'on laisse à la technique le temps de faire ses preuves, ce qui n'est pas encore le cas. Devrait-on renoncer chez nous à interdire le clonage reproductif au motif que l'ONU s'est avérée incapable de l'interdire au niveau planétaire par manque d'une majorité pour le voter? Et donc au total, je crois qu'il faut faire valoir ses convictions, mais sachant qu'il ne faut pas s'enfermer dans des idées définitivement arrêtées et qu'il faut rester ouvert à la discussion naturellement. On ne peut le faire évidemment que s'il y a un débat national indispensable et utile, c'est le deuxième enjeu, l'enjeu national. Bien avant que la loi intervienne, des signes avant-coureurs indiquaient que l'éthique s'imposait peu à peu véritablement dans le pays. Création du Comité consultatif national d'éthique en 1983, rapport du Conseil d'État présidé à l'époque par M. Bréban, on dit quelquefois le rapport Bréban en 1988, et qui s'intitulait déjà « De l'éthique au droit ». Mais pour s'acheminer vers la loi, ce que j'ai tenté de faire, il fallait comprendre les différences qui s'exprimaient chez les Français et comprendre aussi les difficultés rencontrées dans notre pays. Au plan des religions, je les ai naturellement rencontrées. L'audition des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans et même des bouddhistes montrait bien un accord principal sur la dignité de la vie et son respect absolu. Ça, c'était consensuel. Mais il y avait des divergences notables sur le début de la vie. Je n'ai pas le temps dans mon première intervention, mais s'il y a des questions, je pourrai naturellement argumenter. Au plan politique maintenant, vous savez qu'il y a différentes philosophies qui divergent des plus libérales aux plus conservatrices. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que si les lois dites de bioéthique de 1994 ont été adoptées avec une large majorité, une opposition aussi composite qu'inattendue s'est manifestée, associant dans la même position d'opposition, donc, des catholiques ancrés dans leurs convictions, des libéraux s'opposant à toute législation et désirant laisser l'offre et la demande se réguler fonction des choix de chacun, et puis des féministes convaincus qu'on ne pouvait pas légiférer sur le corps des femmes. Donc vous voyez cet ensemble qui s'opposait, mais incapable d'être d'accord sur des positions positives. Elles s'opposaient. Autrement dit, entre ceux qui bloquent, ceux qui freinent, ceux qui avancent et ceux qui anticipent, pouvait-on concilier l'inconciliable ? Pouvait-on éviter la confusion entre les notions morales et légales ? La distinction est parfois difficile, j'ai dû l'expliquer 10 fois. Pourtant Camus l'a très bien fait, Antigone a raison sur le plan moral, mais Créon n'a pas tort sur le plan légal. Et donc, ça n'était pas facile. Et puis, pouvait-on respecter des convictions personnelles et trouver un improbable compromis ? Mon attention a été attirée à ce moment-là par une phrase du discours de réception à l'Académie des sciences morales et politiques prononcée le 6 novembre 1992 par le cardinal Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, qui était accueilli dans cette noble académie, et je cite cette phrase, entre guillemets, « C'est au-delà de nos différences religieuses, politiques, nationales, que comme on le fait pour la recherche de règles économiques et monétaires communes, nous devons trouver un minimum de consensus sur les fondements éthiques de notre existence sociale. » Fermez les guillemets. On voit bien que cette démarche à la recherche du consensus est indispensable et d'autant plus difficile que le monde change très vite. Les questions de société, elles nous ont toujours préoccupés, mais elles mûrissaient à leur rythme pour arriver enfin un jour à maturité. C'est ainsi que la loi sur la contraception a été votée en 1967, que a été adoptée la loi sur l'IVG en 1975, et dans aucune de ces deux lois, il n'y avait d'enjeu scientifique. C'était une loi qui s'adaptait aux mœurs au terme d'une longue réflexion, d'une longue maturation. Eh bien, il en va tout autrement avec les lois dites de bioéthique de 1994. Car si elles ont fini par s'imposer malgré les réticences que je viens de dire, c'est en raison des avancées scientifiques. Quoi qu'on pense, l'infertilité des couples n'apparaissait pas comme une cause nationale. C'est avec la possibilité de congeler les spermatozoïdes et les embryons que sont apparues l'insémination artificielle avec sperme de conjoint, puis avec sperme de donneur, la fécondation in vitro. Et ces techniques, basées sur l'avancée scientifique permettant de congeler et d'utiliser ensuite, ces techniques ont créé le champ de la procréation médicalement assistée et ont modifié les désirs de couples infertiles. De la même façon, ce sont les techniques d'analyse génétique de plus en plus performantes, aujourd'hui le séquençage à haut débit, qui ont permis le développement du diagnostic prénatal, puis du diagnostic préimplantatoire, en quête d'anomalies, il faut bien le dire, de moins en moins sévères et de moins en moins incurables. Et puis en même temps, s'est développé le champ immense de la médecine prédictive. Mais désormais, et c'est un enjeu majeur de ces états généraux, la révision de la loi, les avancées scientifiques et les évolutions sociétales se trouvent intimement mêlées, ce qui crée des difficultés considérables dans la mesure où elles n'ont ni le même rythme ni le même rapport au temps. Les progrès scientifiques sont de plus en plus rapides, une grande découverte chaque semaine au moins. Les évolutions sociétales sont évidemment beaucoup plus lentes. Et donc, on se trouve aujourd'hui dans une situation qui permet de comprendre les questions qui se posent, la recherche délicate de réponses acceptables. Première question, jusqu'où naître autrement ? Eh bien, c'est en se fondant sur les évolutions de la société, qui n'ont rien de scientifique, notamment sur la structure des familles, avec la diminution des mariages, l'augmentation des divorces, l'augmentation des familles monoparentales, l'apparition des unions entre personnes du même sexe, PACS ou mariage pour tous, qu'apparaissent de nouvelles demandes. Et là, c'est la société qui sollicite l'avancée scientifique et pas l'inverse, comme je le présentais tout à l'heure, et qu'on a des demandes de procréation assistée pour toutes les femmes seules, pour les femmes en couple, et que pourrait se profiler à l'avenir la demande de gestation pour autrui pour des couples d'hommes. Ce qui est remarquable, c'est que ces demandes sont destinées à satisfaire un désir d'adulte, alors qu'il n'est jamais question du devenir des enfants conçus sans père, ni biologique, ni social, ni même historique dans la symbolique familiale. Or, s'il y a un risque médical dans la procréation de toute femme, il est bien dans l'évolution psychologique de ses enfants au cours de leur maturation, de leur adolescence, et on le sait d'expérience. Autrement dit, je suis assez choqué parce que de telles demandes font apparaître un droit à l'enfant, qui de fait, de mon point de vue, prend le statut d'un objet. Car sans faire de la haute philosophie, on ne peut jamais prétendre avoir droit à quelqu'un. Et donc, droit à l'enfant, l'enfant prend la condition d'un objet. Alors, toutes ces techniques, elles possèdent à la fois des avantages, des dangers. Il a fallu adopter des mesures d'encadrement pour préciser les conditions dans lesquelles on pouvait y recourir. Et aujourd'hui, c'est la pression de la société qui ouvre le débat sur l'élargissement des indications. Au plan génétique, il me reste combien de temps ?
5 minutes.
Sur le plan de la génétique, je voudrais poser quelques questions. La qualité d'une personne dépend-elle de la qualité de ses gènes ? Autrement dit, est-ce qu'une personne qui possède le gène de la myopathie ou le gène de la chorée de Huntington ou tout autre, cette personne-là a-t-elle une qualité humaine moindre par rapport à ceux qui n'ont pas de gène pathologique ? Je fais remarquer simplement, pour prendre quelques exemples, que Stephen Hawking, que Toulouse-Lautrec, que Petrucciani, qui portaient ou qui portent des maladies génétiques, que je sache, avaient ou ont la même dignité que toute autre personne humaine. Et c'est bien tout le paradoxe du diagnostic prénatal qui cherche à dépister les gènes pathologiques pour supprimer les personnes qui en sont porteuses. Et donc, je ne vois qu'une issue. C'est le traitement génétique, ce qu'on appelle la thérapie génique. Il faut au contraire que la génétique mette des bouchées doubles, qu'elle avance et qu'elle s'acharne, car on arrêtera de supprimer quand on pourra soigner. Mais deuxième question, l'homme est-il réductible à son seul génome ? Autrement dit, est-ce que notre destin est programmé dans notre ADN ? Je ne le crois pas. Lorsqu'un petit homme vient au monde, il est hominisé. Du fait de son patrimoine génétique, il ne peut ressembler ni à un hippopotame ni à un rhinocéros. Mais si vous l'abandonnez immédiatement, il n'apprendra ni à marcher, ni à parler, ni à avoir, ni à manger comme nous mangeons, ni la gestuelle humaine. Il n'aura pas été humanisé par ses parents, ses proches, son environnement et la culture qui nous entoure. Autrement dit, l'homme, et c'est fondamental à comprendre, est probablement la seule espèce animale qui n'est pas exclusivement héréditaire. L'homme est un être de nature, mais aussi de culture, et donc la génétique n'a pas à s'imposer et à faire la loi sur l'évolution des hommes. Il faudrait naturellement évoquer beaucoup d'autres domaines que je vais juste citer. Ils sont nouveaux, ceux-là, mais ils sont très importants, l'intelligence artificielle, les algorithmes, l'arrivée des robots, les avancées des neurosciences, et peut-être en toile de fond les idées développées par le trans et le post-humanisme. Le simple énoncé de toutes ces questions souligne l'importance du troisième enjeu, qui est ma conclusion. Malheureusement, la morale n'est plus à la mode. Elle évoque immanquablement les moralisateurs, censeurs et autres juges, quand l'individualisme revendique de n'avoir pas de compte à rendre. Individualisme, hédonisme, matérialisme sont les dominantes de notre société, dans laquelle la non-satisfaction d'un désir est absolument inconcevable. Je veux, donc je dois obtenir. Dans ce contexte, ce qui m'apparaît, c'est que la seule boussole qui demeure se trouve dans nos consciences. Or, elle me semble insuffisamment formée, insuffisamment nourrie, insuffisamment préparé pour affronter toutes ces questions éthiques. Je suis beaucoup plus inquiet de l'affaiblissement de nos consciences aujourd'hui que des avancées scientifiques. Car ce n'est pas la connaissance qui est dangereuse, c'est l'usage qu'on en fait. Et pour décider d'un usage qui est bon ou d'un autre qui est mauvais, il faut interroger sa conscience. Pour moi, la conscience morale devient indispensable. Son absence conduit à modifier les notions de bien et de mal au gré de l'opinion dominante, sauf à supprimer purement et simplement les notions de bien et de mal, ce que même les philosophes les plus libertariens se gardent de proposer. Alors, pour conclure, juste trois questions. Où allons-nous ? Que voulons-nous faire de nous et de notre humanité ? Et dans quel monde voulons-nous vivre demain ? Voilà, en trois questions résumées, les enjeux des états généraux de la bioéthique.
Merci Jean-François. Alors, avant de passer la parole au Père Saint-Eau, je vous recommande vivement la lecture du livre du professeur Jean-François Mattei qui s'appelle, comme par hasard, Question de conscience. Et vous avez un parfait résumé, plutôt un développement de ce qu'il a esquissé ce soir avec les différents sujets qui sont traités dans ce livre. Question de conscience, les liens qui libèrent. Voilà. Bruno, à toi.
Le père Bruno Saint-Eau qui va maintenant intervenir dans ces mardis d'éthique publique consacrés aux états généraux de la bioéthique est directeur du centre d'éthique biomédicale du centre Sèvres qui accueille ces mardis d'éthique publique.
Voilà, merci de votre accueil. Apparemment, le thème de la conscience n'est pas si déplorable que ça parce que vous êtes là. Donc, je serai un peu moins pessimiste. Pourquoi s'interroger de manière générale et si rapidement avec une question si ambitieuse ? Les états généraux de la bioéthique, quels enjeux ? Pourquoi s'interroger alors même que personne ne peut prétendre avoir les connaissances suffisantes pour maîtriser toutes les sciences et les techniques concernées et pour explorer de manière approfondie toutes les questions éthiques sous-jacentes ? Pourquoi donc éprouver la nécessité de réfléchir et de formuler un avis argumenté sur bien des questions de bioéthique, alors même que de façon évidente, plusieurs questions ne nous concernent pas directement et que nous ne connaissons pas nous-mêmes toutes les souffrances, toutes les attentes des personnes directement concernées ? Pourquoi donc débattre de questions qui ne nous concernent pas forcément directement ? Et en faire un lieu de l'exigence démocratique de la délibération sur les finalités et les valeurs. Une manière de répondre à ces questions est indiquée par le professeur Delfrécy, président du CCNE, qui a en charge l'organisation des états généraux de la bioéthique, dans la première phrase du document publié le 18 janvier 2018, où sont présentés les états généraux. Je le cite. « Quel monde voulons-nous pour demain ?» C'est sur cette question que s'ouvrent aujourd'hui les états généraux de la bioéthique, première séquence de la révision de la loi bioéthique qui devrait avoir lieu à la fin de l'année. Fin de citation. Les états généraux de la bioéthique concernent donc tout le monde, parce que la question « quel monde voulons-nous pour demain ?» est posée à tous. Parce que, comme le dit le CCNE, nous sommes en train de vivre des changements anthropologiques majeurs dans de nombreux champs de la vie humaine, et notamment dans la façon de concevoir un enfant et de devenir parent. Parce que nous avons tous au moins quelques convictions sur les valeurs communes à promouvoir pour vivre le mieux possible ensemble, sous l'horizon de la maladie et de la mort, en bénéficiant des avancées médicales et de la solidarité sociale. Parce que, enfin, le tiers médical institué étant convoqué aujourd'hui, toutes les questions qui touchent le corps singulier d'une personne touchent, atteignent le corps social tout entier. Donc nous sommes tous compétents, nous sommes tous concernés. Alors pour indiquer quelques pistes de réflexion à cette question, quel monde voulons-nous demain, je vous propose trois brèves parties. D'abord, première partie, des enjeux de méthode. Le plus difficile, ce sont les méthodes. Je donne quelques enjeux. Premier enjeu, desserrer un moment l'obsession des nouveaux droits et des normes pour permettre de dégager les significations et les valeurs de nos expériences, de nos actions et de nos projets. Les états généraux seront très rapides, mais si, pressés par l'urgence, nous restons focalisés, attachés, sur de nouveaux droits à conquérir ou à refuser, sur de nouvelles normes à promouvoir ou à empêcher, nous risquons de manquer les significations et les valeurs des actions de soins qui sont en jeu et qui nous permettraient de mieux comprendre et évaluer ce qu'il convient de décider ensuite. Par exemple, il faut d'abord prendre du temps pour sortir de l'obsession du pour ou contre l'extension de l'assistance médicale à la procréation, afin de comprendre les significations et les valeurs de l'engendrement, de la maternité, de la paternité, du lien de filiation et du bien de l'enfant, pour revenir ensuite, enrichi par ce parcours, à la nécessité des normes. Il est frappant, par exemple, de constater que la philosophie ne s'intéresse à l'expérience de la maternité que depuis peu. Étrange. Ainsi, le beau petit livre de Carla Canulo, j'ai pas d'action, hein, mais... Être mère, la vie surprise, déploie les significations et des valeurs de la maternité qui peuvent ensuite étayer des normes, déployer des significations. Voilà. Comment élaborer des normes si nous n'explorons pas les significations et les valeurs fondamentales de l'amour, de l'enfantement, de l'éducation, du soin, de la relation de confiance, de l'alliance thérapeutique? Si nous nous réduisons à arbitrer dans un affrontement de pouvoir les usages des techniques sans nous interroger sur ce que cela signifie et transforme dans l'expérience humaine du désir, de l'amour, de la souffrance, des relations. Le CCNE, dans son avis 126, nous invite lui-même à sortir de l'obsession normative, d'abord, pour mieux penser et mieux décider ensuite. Je cite, « Un monde nouveau se reconfigure qu'il s'agit de penser et pas seulement de normer, en sachant qu'une part d'imprévisible est en jeu de façon inévitable. » Fin de citation. On ne peut normer sans penser et sans déployer des significations des actes humains qui sont engagés dans les nouvelles techniques. Et de ce point de vue-là, il y a une différence fondamentale entre un avis du CCNE de 2005 et un avis de 2017, où les significations disparaissent. Voilà. Deuxième point, réguler le rapport aux passions et aux convictions dans l'argumentation éthique. Bah, nous savons tous. Le philosophe Nietzsche s'élevait déjà contre ces grands enthousiastes qui prennent leurs élans pour des arguments. Il visait notamment les prêtres, mais cela peut valoir pour tous. Je cite, « Ils prennent les beaux sentiments pour des arguments, la poitrine soulevée pour le soufflet de forge de la divinité, la conviction pour le critérium de la vérité. » Fin de citation. Les émotions, les passions, les convictions vigoureuses peuvent être des indicateurs et des stimulateurs de la réflexion, mais elles ne peuvent remplacer un véritable et patient raisonnement et discernement éthique. Troisième point. Réguler le retour de l'argument de la lutte contre les souffrances. La médecine existe parce que certaines personnes ont voulu répondre à la souffrance d'autres personnes en utilisant avec prudence les savoirs et les techniques disponibles. Cette volonté de remédier aux souffrances d'autrui est sa grandeur et son défi, puisque le soin est aussi le lieu de possibles dérives éthiques, puisque la médecine est aussi, comme le rappelait le philosophe Claude Brouwer, que j'aime beaucoup, la gardienne du seuil d'humanité, là même où la personne est la plus exposée, la plus fragilisée. L'exposition aux plus grandes souffrances impose la plus grande vigilance éthique, car l'invocation des souffrances particulières ne justifie pas tout, même si elle sollicite la créativité technique et l'engagement médical. Quatrième point. Ne pas réduire la vérité d'un argument à sa puissance politique. Nous ne pouvons mener des débats pour chercher comment il convient au mieux de réguler éthiquement et juridiquement l'usage des techniques biomédicales si nous confondons la justesse d'un avis éthique avec la puissance politique de ceux qui le défendent. Les États généraux ne peuvent être réduits à l'affrontement de convictions et de forces politiques qui détermineraient ultimement des vainqueurs et des vaincus. Il devrait être l'occasion d'un travail d'affinement de ce qui convient au mieux à notre humanité, de ce qui la respecte, la promeut, au moment même où elle rencontre de nouvelles difficultés, précisément parce qu'elle a le plus de possible devant elle. Précisément. Et pour mener ce travail, il faut veiller à la qualité de relation de ceux qui débattent. L'écoute d'autrui et la raison s'exercent très difficilement dans l'invective, les procès d'intention, les caricatures. Aussi, ce n'est pas être naïf de reprendre, dans un autre contexte, la remarque de Jean-Paul II sur les conditions de la recherche de la vérité dans Fides et Ratio, l'encyclique sur les rapports entre la raison et la foi. Je cite « Il ne faut pas oublier que la raison elle-même a besoin d'être soutenue dans sa recherche par un dialogue confiant et par une amitié sincère. Le climat de soupçon et de méfiance qui parfois entoure la recherche spéculative oublie l'enseignement des philosophes antiques qui considéraient l'amitié comme l'un des contextes les plus adéquats pour bien philosopher, pour bien penser, pour bien discerner. » Fin de citation. Sans attendre évidemment une amitié sincère, il est au moins possible et nécessaire de garantir le cadre minimum d'un dialogue respectueux et confiant dans les débats des États généraux de la bioéthique. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est pas mal parti, de mon point de vue, cette qualité-là. Bon, cinquième point, veiller à la qualité de l'argumentation en régulant l'usage des comparaisons et en analysant les sophismes. Je vais faire simplement... J'ai combien de temps encore ? 10 minutes. Veillez à la qualité de l'argumentation en régulant l'usage des comparaisons en analysant les sophismes. Je ne sais pas si vous avez lu l'article dans La Croix où intervenait le professeur Mattei. Voilà. Les comparaisons aident à penser, mais elles ne sont pas raison. Comparaison n'est pas raison. Dans son débat avec le professeur Mattei dans le journal La Croix du 30 janvier, le professeur Nizan voulait justifier la GPA en mettant en cause directement le principe de l'indisponibilité du corps. Je cite « Quant au respect de l'indisponibilité, quelle est la différence entre la mise à disposition de son corps par un sous-marinier qui plonge pendant 9 mois et une femme qui porte l'enfant d'une autre ?» Fin de citation. Évidemment, le professeur Mattei s'est indigné. « Vous ne pouvez pas employer cette comparaison, cela n'a rien à voir. Bon. » Enfin voilà ce qu'il y a mobilisé dans le temps. Quant au sophisme, on y reviendra dans les questions. Sixième point. Considérer la bioéthique comme une éthique biomédicale, sociale, économique et politique. Pourquoi ? Parce que, comme le dit le pape François, tout est lié. C'est son leitmotiv. Du point de vue de la méthode, nous ne pouvons plus poser les questions de bioéthique simplement en termes d'utilisation ou non d'une technique. Il nous faut être attentifs aux enjeux sociaux, économiques et politiques. Ces différentes éthiques font en effet système et se conditionnent mutuellement. Par exemple, la crise des EHPAD devrait être partie intégrante des états généraux de la bioéthique. Que signifie vieillir de manière humaine et humanisante? Quelles valeurs du soin sont à promouvoir? Qu'est-ce qui pourrait favoriser l'implication des proches et des aidants en aménageant les conditions de travail et en améliorant les conditions financières? Que faut-il mobiliser comme ressources humaines, techniques et financières? Où faut-il mettre ou déplacer les priorités de dépenses puisque nous ne pouvons pas tout faire? Où? Quelle part les citoyens doivent-ils assumer? Comment cela rejaillit-il sur les autres domaines de la bioéthique? Quels sont les biens communs de santé à privilégier? Est-ce qu'il y a des biens de santé fondamentaux qu'il faut assurer à tous les citoyens et après on peut penser à autre chose? Voilà. Les prises de conscience sont là, mais il faudrait nouer courageusement les problématiques, ainsi que le faisait le CCNE dans son avis 101 de 2017, où il recommandait déjà, je cite, de réintégrer la dimension éthique et humaine dans les dépenses de santé, afin de permettre à l'hôpital de remplir de manière équilibrée l'ensemble de ses missions, et pas uniquement les plus techniques et les plus spectaculaires. Fin de citation. Voilà. J'ai combien de temps encore ?
Vas-y. 7 minutes.
Bon. Deuxième partie, je l'abrège. des enjeux sur la manière de considérer les valeurs et les normes relatives à la personne. Ça, le professeur Mattei l'a déjà évoqué, j'en dirai quelques mots. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a des tensions. Il y a des tensions éthiques. La première, la tension entre l'indisponibilité du corps et la revendication de la libre disposition de soi. Tension. Beaucoup de questions mettent en jeu le rapport de la personne à son corps. Le corps est-il quelque chose à disposition d'un esprit, comme une chose, dans une sorte de dualisme nouveau, ou le mode d'expression et de manifestation d'une personne en relation avec autrui dans le monde commun ? Pourquoi, en droit français, ne peut-on pas disposer de son corps pour en vendre ou même en donner, comme on veut, les organes et les éléments, comme on le voudrait ? Ah non, pas possible. Les principes fondamentaux du droit français concernant le corps, inviolabilité, indisponibilité, non-patrimonialité, anonymat du don d'organes et de gamètes, risquent d'être mis en cause par les nouvelles demandes de gamètes et d'organes. Faut-il lever les principes fondamentaux pour répondre à la pression des demandes ? Le texte présentant les états généraux de la bioéthique laisse entendre que la question sera abordée. Mais il y a un enjeu évidemment extrêmement important. Hein, voilà. Pouvons-nous, voilà, l'enjeu est hein, c'est extrêmement important, pouvons-nous collectivement vouloir une société où le corps entrerait dans la sphère marchande ? Même si l'autorisation ou l'exception était très encadrée. Et il y a des effets de phénomène de seuil, si vous voulez. Même si on va dire, on va encadrer. Pouvons-nous collectivement vouloir une société où le corps entrerait dans la sphère marchande, même si l'autorisation ou l'exception était très encadrée ? Pouvons-nous vouloir que les personnes faibles, fragiles, puissent être ainsi exploitées, évidemment, avec leur consentement, n'est-ce pas ? Cela ne risque-t-il pas, comme le dit le CCNE, de déstabiliser tout le système juridique français après avoir changé la formulation des valeurs fondamentales de la personne? Donc de déstabiliser les valeurs fondamentales de la personne. Deuxième point, tension entre l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des adultes en attente d'enfant. Ça aussi, c'est une tension. Le droit n'arbitre pas, même si la Convention internationale des droits de l'enfant part de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais dans la pratique, en fait, il s'agit d'équilibrer, d'arbitrer entre l'intérêt de l'enfant, tel qu'il est formulé, et puis l'intérêt des adultes. Comment on fait pour trancher ? Eh bien, on ne sait pas. Et comme disent beaucoup de juristes, ben, on cherche à équilibrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est la priorité ? Voilà. Le plus faible, l'enfant, le malade, la personne âgée, resteront-ils au centre de l'argumentation éthique et des dispositifs juridiques ? Troisième point. La tension entre autonomie d'une part et solidarité et responsabilité d'autre part. La revendication d'autonomie revient fréquemment dans l'argumentation. Elle est souvent comprise comme une capacité d'autodétermination ou d'indépendance, réclamant qu'aucune autorité extérieure ne s'immisce dans la décision personnelle. Mais l'autonomie revendiquée est ici celle d'une demande faite à la société d'accomplir sa propre volonté. Elle ne réclame pas un droit liberté, mais un droit créance, obligeant la société à fournir la prestation médicale demandée. Puisqu'elle réclame des biens techniques et financiers assurés par la société, comment l'autonomie pourrait-elle se concevoir comme autarcique ? Comment pourrait-elle ne pas être fondamentalement relationnelle et donc se conjuguer avec la nécessaire solidarité et la réponse et la responsabilité sociale ? Bon. Je passe l'autre point. On y reviendra dans les... La question de la tension entre nécessité de la décision personnelle et la nécessité de l'aide technique, notamment informatique. Ça reviendra sur les questions sur l'intelligence artificielle. On aura de plus en plus besoin d'une aide pour penser, voilà. Mais est-ce que ça va nous faire en sorte que quelqu'un va décider à notre place, voilà. Donc la question de la responsabilité. Ou l'avis du CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté, est vraiment intéressante parce qu'elle dit, ça s'intitule comme ça, « Comment permettre à l'homme de garder la main ?» Je trouve ça bien. Une belle manière en quelque sorte, d'exprimer le défi éthique. Comment permettre à l'homme de garder la main ? Voilà. Bon. Avis de décembre 2017. Je y reviendrai s'il y a des questions. Troisième point, j'ai encore 2 minutes.
Oui.
Troisième point, troisième partie, des enjeux sur la manière de faire société et de se décider collectivement. Premier point, la légitimité de la régulation sociale de l'intime. Le premier enjeu est de comprendre la légitimité de la régulation sociale et politique de ce qui est considéré comme intime, la procréation, à partir du moment où le tiers médical est convoqué. Au cours du Forum européen de bioéthique de Strasbourg, qui s'est achevé récemment, le 5 février, Véronique Fournier, directrice du Centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin à Paris, posait bien la question, et me semble-t-il avec une réponse qui ne serait pas la mienne. Je cite, très bonne question, « Quelle est la légitimité de la société pour intervenir dans ce domaine de la procréation ? Au nom de quoi la société a-t-elle à se mêler des manières de procréer ?» Fin de citation. De façon générale, la société se mêle des manières de procréer parce que la fonction du droit est d'instituer des rapports de parenté de filiation et d'organiser juridiquement les obligations entre les conjoints et entre les conjoints et les enfants afin de les protéger et de les éduquer au mieux. C'est la fonction du droit, on ne peut pas passer à côté. De façon particulière, lorsque la médecine est convoquée, il y a lieu d'établir des priorités d'action et de financement en fonction des pathologies rencontrées. Si la médecine n'est plus convoquée pour remédier de façon prioritaire à des pathologies, mais pour répondre à d'autres demandes, il restera à établir des priorités d'accès et de financement, puisque la solidarité nationale n'est pas inépuisable. À travers ces choix importants, il me semble que schématiquement, je finirai par là, deux modèles politiques et sociaux sont en jeu et qu'il va falloir choisir, ou en tout cas, devenir vraiment conscient des évolutions en cours. Le professeur Mattei en a déjà parlé. Le premier modèle, ça peut être le nôtre, correspond, dans le premier modèle, c'est le modèle actuel, centré sur la valeur intrinsèque de la personne, sa dignité, la non-patrimonialité, l'indisponibilité du corps. C'est un modèle où la solidarité nationale de la sécurité sociale est exercée sous la condition de la reconnaissance de pathologies médicalement constatées. C'est un modèle de solidarité et de responsabilité élaboré à partir de la priorité du soin des plus faibles. Bon, c'est en quelque sorte notre modèle. Il peut changer sur certains points, comme sur l'anonymat, mais pas sur d'autres. Le second modèle est influencé par certains courants du libéralisme politique, alors libéralisme politique, économique, éthique, trois formes de libéralisme, mais qui se conjuguent. Ce modèle privilégie la liberté de l'individu et la libre disposition de soi, y compris des éléments du corps, tant que l'exercice de sa liberté ne nuit pas à celle d'autrui. Il valorise la contractualisation des choix entre personnes consentantes et la contractualisation des liens. Il considère que ce n'est pas à l'État de réguler l'usage des techniques médicales, par exemple celle des techniques de l'assistance médicale à la procréation, mais que ces techniques doivent être disponibles et doivent être mises en œuvre à la demande des personnes, même hors cadre pathologique, si possible, évidemment, avec la mobilisation financière de l'État en raison de l'égalité entre tous les citoyens. Le centre est l'individu, convoquant cependant la société pour réaliser ses choix et réclamant de façon paradoxale à la fois l'autonomie d'indépendance et le lien et le soutien. C'est ça les paradoxes. Mais c'est les paradoxes de l'individu contemporain. On est en plein dedans. Voilà. Troisième point, la limitation des désirs au nom du bien et de la responsabilité. Quelle société voulons-nous pour demain ? Quelles limites mettre à nos désirs de ne pas souffrir, de ne pas mourir, de nous réaliser dans nos liens et nos actions ? Sinon celle de la référence au bien de l'autre, à commencer par le plus petit, à notre commune humanité vécue en solidarité dans le monde commun, ou la maison commune, comme dirait le pape François. Allons-nous, comme l'affirme Laurent Alexandre en visant même les chrétiens, accepter les technologies les plus transgressives parce que nous voulons moins souffrir et moins vieillir ? L'éthique commence avec la préoccupation de l'autre et de tous les autres, et notre lien avec lui, et notre lien de solidarité avec eux, indéfectible. Quel monde voulons-nous pour demain ? Personne ne peut répondre tout seul à cette question. Mais puisque vous êtes là, ça laisse beaucoup d'espérance sur la conscience commune. Pour ça, je serais moins pessimiste que le professeur. En entrant dans le questionnement plus précis sur chacun des dossiers, nous pourrons peut-être, à partir de ces quelques réflexions, travailler, c'est des points à travailler, devant les urgences du temps, réfléchir à un nouvel humanisme, à la manière dont autrefois Maritain et Mounier, en leur temps, ont cherché à valoriser la personne, sa dignité, son unité, sa liberté, sa responsabilité pour autrui. Nous ne sommes plus là. Mais c'est ainsi que se termine votre livre, professeur Mattei. Il est donc absolument nécessaire de penser l'humain, de réinventer notre humanisme, au moins de le renouveler. Fin de citation. Nous ne serons jamais de trop pour réfléchir à cet enjeu majeur de renouveler notre humanisme. Merci.
Merci au père Bruno Sainteau qui dirige le centre d'éthique biomédicale du centre Sèvres pour cette intervention faite toute de tensions et de paradoxes qui ouvre sur beaucoup de questions à discuter. Et comme le professeur Fissinger avait introduit les débats de ce mardi d'éthique publique, eh bien, il lui revient de proposer une première conclusion en 5-6 minutes.
J'aurais bien du mal à présenter une conclusion, même simplement en 5 minutes, puisqu'on ouvre la réflexion sur l'état général de la bioéthique ce soir. Ce qui me frappe quand même, c'est la complémentarité entre le professeur de médecine et le père jésuite sur le fait que quel monde voulons-nous, et dans ce monde, que ce soit la conscience ou la morale, c'est ça qui peut aider la société actuelle à évoluer vers autre chose que certaines catastrophes. Par exemple, on voit bien le problème de la GPA, et je suis très heureux de la complémentarité entre ces deux exposés, un exposé très, très général et qui met bien Jean-François, avec son expérience ministérielle, qui a porté quand même les premières lois de bioéthique, est parfaitement au fait de ce qui va se dérouler et des enjeux, et Bruno qui resitue dans les détails, en particulier sur la procréation médicale assistée. Les lois de bioéthique, ça ne va pas simplement être la procréation médicale assistée, ça va aller bien au-delà, mais à travers ce sujet, tu montres bien la disponibilité du corps, et ce n'est pas un hasard si le premier chapitre du livre de Jean-François commence par une réflexion sur le corps. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'autre voulait, avant de clore cette première partie...
D'accord. Eh bien, écoutez, il nous reste à vous remercier, Monsieur le ministre Mattei, le père Bruno Sainteau, le professeur Jean-Noël Fissinger, pour cette participation à ce débat qui s'ouvre. N'oubliez pas que vous avez été incité à participer par tous les moyens qui ont été évoqués, et rapidement, puisque tout cela doit se clore au mois de mai prochain. Et merci encore pour votre présence ici. Merci à nos intervenants pour ces propos tout à fait passionnants et stimulants. Nous sommes parfaitement dans les temps. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir respecté vos temps de parole respectifs.
Comme quoi, même un Marseillais peut respecter son temps de parole.
Et donc, la parole est à la salle. Alors, ce que je vous propose, c'est que les trois personnes à la tribune réagissent aux questions qui vous seront posées. Ah oui, alors d'abord, la question de Bordeaux.
Alors, il y a énormément de questions, mais bon, je vais prendre la première. Alors, compte tenu de la complexité des problèmes de bioéthique, n'est-il pas illusoire de vouloir aller dans une réglementation trop détaillée plutôt que de s'en tenir à quelques forts principes de base ?
Oui, je peux répondre, effectivement. Il n'aura échappé à personne, tu l'as rappelé, qu'en 1994, il y avait trois lois. Il y avait une loi portée par le ministre de la Santé et qui traitait des transplantations d'organes, de la procréation assistée et de la génétique. Il y avait une loi qui était la prolongation de la loi de 78 sur l'utilisation des fichiers et de l'informatique, portée par le ministère de la Recherche. Et puis, j'avais voulu, en me mettant la communauté des la plupart des universitaires de droit contre moi, j'avais voulu introduire un chapitre sur le respect du corps humain dans le Code civil. C'était copernicien comme démarche, semble-t-il, car pendant plus de 2000 ans, on avait tout fait pour ne jamais parler du corps. On avait confié la fonction triviale au médecin, la fonction transcendantale ou métaphysique au prêtre. Et les juristes s'étaient réservés des personnes de droit moral ou physique qui n'avaient aucune réalité dans la vie quotidienne. Et dans cette loi, c'est en réalité... j'ai voulu mettre dans cette loi tout ce qui constitue la loi cadre dont vous parlez, c'est-à-dire la loi qui fixe les grands principes. Les grands principes, c'est on l'a dit tout à l'heure, mais je le redis, le respect de l'intégrité, l'indisponibilité, la non-patrimonialité, l'anonymat et la gratuité. Donc, tout est fixé là. Et d'ailleurs, la gestation pour autrui, elle n'est pas compatible avec cette loi cadre, car le corps étant indisponible, une femme ne peut pas disposer de son utérus comme elle veut, en le prêtant, en le louant, d'autant que la non-patrimonialité fait aussi qu'évidemment il est interdit d'en tirer profit. Donc cette loi cadre, elle existe. Simplement, dans le détail des choses, cette loi ne dit pas que pour faire de la procréation assistée, qui n'est d'ailleurs pas citée, il faut un homme et une femme, qui soient infertiles ou fertiles, etc. Donc après, je ne suis pas Montesquieu, mais toute l'architecture des lois et ce qui en découle est extrêmement compliquée. Vous avez des grands principes, dont certains d'ailleurs sont élevés à la valeur constitutionnelle, ce qui a été le cadre des grands principes de la loi sur le respect du corps humain. Et puis après, vous avez les lois d'application. Et puis après la loi, vous avez les décrets. Et puis vous avez les arrêts, les arrêtés. Et puis vous avez les directives. Et qu'il faut pouvoir décliner tout cela. Et donc, à un moment donné, se pose la question, très simplement, mais qui peut avoir accès à la procréation assistée ? Un couple infertile ? Vous savez, les choses se sont défaites très minutieusement et petit à petit. J'avais dit en 94, un couple infertile dont la durée de vie commune est au moins égale à 2 ans et qui sont en âge de procréer. Vivant et en âge de procréer. J'avais évidemment essayé de démonter le vivant pour éviter les inséminations post-mortem, faisant naître délibérément des orphelins de père. J'avais dit en âge de procréer pour éviter ce que les Italiens ont fait, les mamies-mamans, c'est-à-dire les femmes. Mais j'en ai une qui est venue me poser la question. On m'a dit, j'ai 62 ans, je voudrais un enfant. J'ai dit, bon. Et à un moment donné, elle me dit, mais j'en ai déjà 3, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper d'eux parce que je travaillais. Celui-là, je vais m'en occuper. Bon, passons. Mais c'est pour vous dire qu'on a des demandes étonnantes. C'est d'ailleurs parce qu'en Italie, il n'y avait pas eu de législation pour des raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, qu'on a eu la menace de clonage, qu'on a eu les mamies-mamans, et que le Parlement italien a dit, ben, tant pis pour le Vatican, mais il faut qu'on légifère. Et ils ont légiféré comme nous, mais avec, évidemment, pas mal de retard. Donc, il y a une loi cadre, mais elle ne peut pas répondre à tout. Et donc, il faut une loi d'application, de mise en œuvre, en quelque sorte. Par exemple, je prends encore un exemple, puis je ne vais pas accaparer le micro, mais pour le diagnostic prénatal, on trouve une anomalie. Le couple désire une interruption de grossesse. Qui décide ? Qui conseille ? J'ai souhaité créer des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires et avant qu'une décision ne soit proposée au couple, il y a l'avis de tous ces spécialistes réunis, pédiatres, chirurgiens pédiatres, biologistes, etc. Donc, ils donnent leur avis. Et ça, ça doit s'organiser par la loi. Donc, c'est la mise en œuvre. Voilà la première question.
Une autre question de Bordeaux ?
Oui. Simplement que il faut veiller au moment où on franchit des seuils. Alors, je suis très attentif à ça, comme en 2013, en plein août 2013, le changement s'est opéré, le changement du statut juridique de la recherche sur l'embryon. Et puisqu'on est passé d'un interdit de principe assorti de dérogation à une autorisation de principe, évidemment, régulée. Mais si vous voulez, des seuils comme ça, pour moi, c'est toujours très, très important. Donc, par exemple, si on remettait en cause la question de l'indisponibilité du corps, voilà, ce serait, à mon avis, un seuil extrêmement important. Même si on régule, c'est-à-dire dans certains cas, telle personne pourra. Donc moi, je suis très attentif à ça. Et il me semble qu'il y a des seuils extrêmement importants Et quand on les franchit, après, on ne sait pas, où ça s'arrête. Ça, voilà. Et donc, il y a des marqueurs comme ça qui sont pour analyser les évolutions de société et des choses sur lesquelles, à mon avis, il faut tenir. Le statut du corps est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Parce que c'est un lieu quand même. C'est un lieu, soit le corps est une chose qu'on instrumentalise, soit non, c'est le corps, c'est la manifestation de la personne. Voilà, c'est une compréhension du corps qui n'est pas instrumentale. Et là, je pense qu'il y a, si on franchit ça, c'est un seuil. Et moi, je serais très vigilant sur les franchissements des seuils. Voilà.
Bon, on va laisser parler la salle, mais je pourrais réagir là-dessus, non pas pour aller contre, mais argumenter davantage.
On va prendre encore une question de Bordeaux, puis après ça, on passera à la salle.
Alors, doit-on parler de respect inaliénable de la vie ou de respect inaliénable des personnes ?
Alors ça, c'est pour Bruno.
Ça. Oui, ça, c'est pour un jésuite, ça.
Je ne sais pas avec quoi est préposé un jésuite. Sinon, aux questions qui sont un peu tordues, si j'ai bien compris, parce qu'il a l'esprit un peu tordu. Alors, en fait, je pourrais dire que moi-même, j'hésite beaucoup à employer l'expression du respect de la vie. Pourquoi ? Parce qu'on fait de la vie une certaine essence qui existerait indépendamment des êtres vivants. Ce que l'on connaît, ce que l'on rencontre, ce sont des êtres vivants. Des animaux, des personnes humaines, c'est ça qu'on rencontre. Si on parle d'un absolu du respect de la vie, on n'arrive même plus à comprendre pourquoi il ne faut pas d'acharnement thérapeutique. Or, ce qui est au centre, c'est la vie de la personne. C'est la vie de la personne. C'est la personne vivante qu'il faut respecter de son commencement jusqu'à sa fin naturelle. C'est ça. Mais si vous parlez de la vie en général, mais la vie existe où ? Est-ce qu'il y a une essence de la vie qui est quelque part ? Donc je suis extrêmement réticent à employer ces expressions. Voilà. Sinon, on ne peut pas comprendre pourquoi, finalement, la personne n'est pas tenue, en fin de vie, d'employer tous les moyens possibles pour continuer à vivre. Formalisé dès le 16e siècle, Francisco de Vitoria, voilà, la personne est tenue. C'est des questions qui se posaient à l'époque. Est-ce que tout le monde est tenu, sous peine de péché, à employer tous les moyens qui sont disponibles par la médecine ? Par exemple. Par exemple, en ruinant sa famille. Voilà. Je sais qu'il y a un remède, n'est-ce pas ? Il coûte très cher. Et si je suis tenu d'entretenir ma vie à tout prix, je vais prendre le remède, je vais ruiner ma famille, etc. Non. Comme disait Francisco de Vitoria, à quoi on est tenu ? On est tenu uniquement aux moyens ordinaires. Voilà. Bon, c'est l'ancêtre de la pensée sur ce qu'est, par exemple, l'obstination déraisonnable. C'est ça, on est tenu qu'aux moyens ordinaires. Donc la vie n'est pas une essence, si vous voulez, qui existerait je ne sais pas où, qu'il faudrait conserver à tout prix. Non. Ce sont des êtres vivants. Voilà. Théologiquement, si vous voulez, même quand il est parlé de vie, il est parlé du Christ qui est la vie. On ne peut pas parler d'une essence de la vie. C'est le Christ qui est la vie. C'est quelqu'un. Ce n'est pas une essence qui serait je ne sais pas où. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris l'enjeu. Et notamment l'enjeu de ne pas entretenir la vie, mais elle est où si on dit ça, on légitime des formes d'obstination déraisonnable. Autrefois, on appelait ça l'acharnement thérapeutique. Mais voilà. Non, c'est la vie des personnes, la vie des êtres vivants, la vie des animaux. Vous sentez un peu les enjeux conceptuels, mais ils ne sont pas minces. Et sinon, il y a des gens, quand vous employez ces expressions-là, ils ne vous comprennent pas. On ne défend pas absolument la vie, on défend des personnes vivantes. Bon, on peut discuter, hein, mais, mais, alors, mais je vous montre les enjeux qui sont derrière.
Puisque tu proposes de discuter, on ouvre les questions à la salle. Alors, je vais juste compléter la réponse de Bruno Santos, si tu permets.
Je t'en prie.
D'abord, il n'y a dans aucun texte de loi la définition de la vie. Et il n'y a pas non plus la définition de la personne. Et quand j'ai rencontré les communautés religieuses, j'ai rencontré les bouddhistes. Et quand j'ai questionné le grand vénérable de la Grande Pagode à l'époque, en 93, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous pensez du respect dès le début de la vie ?» On était dans une position inconfortable, en tailleur sur un tapis. Bon. Et je l'observe et je vois un balancement qui se fait. Puis au bout de 20 secondes, 30 secondes, ça paraît une éternité, mais il m'a toujours pas répondu. Alors je lui dis, mais grand vénérable, est-ce que vous avez compris ma question ? Il m'a dit, oui, mais de quelle vie vous parlez ? Car évidemment, j'ai compris à ce moment-là que pour eux, les vies se renouvellent sous des formes différentes ou autres, et qu'ils ne pouvaient pas me répondre sur le début de la vie. Je me suis dit, là, il y a un problème. Et donc, je crois que la question est intéressante, mais il n'y a pas de réponse.
Ce sur quoi j'insiste, c'est la manière de poser
oui,
la question.
Sûr.
Et à mon avis, on aboutit à des impasses si on essentialise la vie comme quelque chose qui existe. Voilà.
Bien. Alors, les questions. Plein de questions là-bas au fond. Vous de premier rang. Jérôme.
Oui, Jérôme Vignon, merci. Beaucoup d'entre nous ont été frappés par un sondage paru dans le journal La Croix il y a quelques semaines et qui semblait montrer qu'une majorité de nos compatriotes sont plutôt passés du côté du second modèle du Père Saint-O, c'est-à-dire très tentés par le libéralisme politique dans beaucoup de domaines, l'euthanasie, l'accès à la GPA, par exemple, pour prendre ces exemples emblématiques. D'où ma question. À votre avis, est-ce que les conventions régionales citoyennes, enfin les débats citoyens régionaux, vont se dérouler de telle sorte qu'ils obtiendraient le même résultat ? Et le comité national d'éthique est-il organisé pour se donner le temps de la réflexion sur le sens, pour éventuellement s'opposer ou balancer la tendance spontanée exprimée dans ce sondage ?
Alors, si vous permettez, j'ai réagi naturellement à ce sondage et pas d'une manière favorable. J'ai essayé de comprendre, déjà dans ma vie politique, j'ai essayé de comprendre les sondages qui ne marchaient pas bien, c'était contrariant. J'ai retrouvé, et pourtant Dieu sait que ce n'est pas un de mes sociologues préférés, mais j'ai retrouvé un texte de Pierre Bourdieu de 1973 sur les sondages. Et son article s'intitule « L'opinion publique telle que présentée par les sondages n'existe pas ». Et il pose trois postulats qui sont, à mon avis, assez intéressants. Premièrement, il dit « On interroge des gens, mais est-ce qu'ils ont tous une opinion ? » Est-ce qu'ils ont tous une opinion ? Comme on leur pose une question, ils vont essayer de répondre, mais est-ce qu'ils ont une opinion ? Et répond non. Deuxième postulat, l'opinion des uns ne vaut pas l'opinion des autres. Si c'est l'opinion d'un couple infertile, il est très impliqué, il a une opinion qui est travaillée, qui est réfléchie, et elle est forte. Et si vous interrogez quelqu'un qui passe et qui n'a jamais réfléchi à ces questions, il va vous donner une opinion mais qui n'est pas véritablement argumenté, réfléchi, et qui donc n'a pas le même poids. Et troisièmement, il dit que la réponse aux questions dépend de la façon dont est formulée la question. Si vous posez la question, comme dans le sondage que vous évoquez, êtes-vous favorable à ce que toutes les femmes puissent bénéficier des techniques de procréation pour avoir un enfant comme les autres ? La réponse est plutôt oui, parce que les gens ont envie de justice, d'égalité, de compassion. Mais si vous posez la question en disant « Est-ce que vous êtes favorable à la conception d'enfants sans père ?» Ce qui est la même chose. La réponse est plutôt non. Donc, je suis incapable de vous dire si ce sondage exprime réellement l'opinion publique aujourd'hui, telle qu'à travers les sondages. Alors, il faut toujours faire attention, parce qu'il y a un autre élément que Bourdieu n'apporte pas, mais que j'ajoute à la discussion, c'est qu'il est quand même intéressant de comparer un même sondage dans le temps. Or là, la seule chose qui me gêne, c'est que ce sondage était, semble-t-il, assez comparable à un précédent et qu'il montrait une évolution. Mais cette évolution ne m'étonne pas. Moi, je ne vais pas vous faire de confidences sur ma vie personnelle et familiale, etc. Mais quoi qu'on ait pu faire, je peux vous dire que les générations de mes enfants et la génération de mes petits-enfants n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai porté, avec ce que j'ai essayé de transmettre, et qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, quoi que j'ai pu faire. Peut-être l'avons-nous mal fait, mais c'est ainsi. Le monde, effectivement, a changé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de familles monoparentales aujourd'hui, j'ai été le ministre de la Santé, mais aussi de la famille et des personnes handicapées. Mais déjà en 2003-2004, je voyais le nombre, car on me posait la question. Ces familles monoparentales sont dans la difficulté financière. Elles ont des soucis. Quand il y a deux salaires pour assurer un loyer, la marche d'une maison, etc., bon, on peut équilibrer. Mais quand vous n'avez qu'un salaire, avec en plus une femme qui travaille pour l'avoir, ce salaire, ça devient très compliqué. Et donc ces gens qui argumentent en disant « Et pourquoi pas les femmes seules n'auraient-elles pas d'enfants ?» Il y en a tellement de familles monoparentales. Ça n'est pas très simple, au regard de l'évolution de la société, de continuer à prêcher certaines valeurs que nous portons encore. Mais voilà, il faut, je crois qu'il faut aussi avoir le rapport à la réalité, quoi.
Bruno, tu voulais intervenir sur ce
oui.
sujet.
Bon, plusieurs ont accusé ce bon journal La Croix d'avoir osé publier un tel sondage absolument défavorable à tout ce que pense l'Église catholique, etc. Bon, je dirais, on se calme. C'est une photographie d'opinion, comme vous l'avez très bien dit, là, je dirais tout à l'heure, à un moment donné. Mais quel est le défi des états généraux de la bioéthique? C'est de transformer une collection d'opinions en un avis éthique, en les éprouvant dans l'argumentation, dans le débat, etc. Pourquoi? Mais parce que c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous avez une tante, une cousine, un cousin, le grand-oncle, le petit-fils, etc., qui a un besoin médical, qui est dans la souffrance, et qui dit « j'ai un moyen », mais vous, vous êtes de la parenté, votre cœur, il fait comme ça, ou vous êtes médecin, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie d'aider les gens. Vous avez envie de leur faire du bien. Et voilà. Non, alors, ça part d'un bon sentiment, comme on dit. Mais le défi, c'est que cette opinion-là n'a pas été éprouvée, justement, de façon systémique. C'est-à-dire, on n'a pas vu tous les enjeux de la question. On a vu le possible soulagement d'une personne en sa singularité. Mais les effets de ces décisions répétées, voilà, individuelles répétées, sur le corps collectif, ça c'est autre chose. D'où, si vous voulez, la grande difficulté, même quand vous êtes accompagnateur de couples, de familles, etc. Vous rencontrez des gens qui sont dans la difficulté. Vous rencontrez des couples chrétiens qui ont beaucoup réfléchi et puis qui ont décidé de procéder à l'assistance médicale à la procréation. Bon, même avec tiers d'honneur, ce qui quand même bon, est plus problématique. Bon, même avec tiers d'honneur. Alors, quand vous êtes dans la posture de l'accompagnement, ben, vous aidez les gens à réfléchir s'ils vous posent des questions avant. Hein, encore. Ensuite, vous allez vous trouver après et puis on dit, bon, s'ils vous posent des questions avant, ben, on aide les gens à réfléchir. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, qu'est-ce que... D'abord, le récit, qu'est-ce que vous vivez, etc. Et puis, on tente de faire comprendre, justement, les enjeux éthiques derrière leur discussion. Puis après, ils vont décider. Mais il y a une différence profonde entre accompagner et légiférer. C'est très différent. Accompagner n'est pas légiférer. Si l'accompagnateur se met à être un législateur, ça ne va plus. Bon, accompagner n'est pas légiférer. Mais il nous revient de voir les effets collectifs. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça engendre dans le corps social tout entier? Qu'est-ce que ça transforme dans les relations humaines? Qu'est-ce que ça bouleverse comme grand principe de l'être ensemble? Voilà. Donc, il faut pouvoir déployer ça, avoir une vision justement collective. C'est l'enjeu du droit, justement. De dire, maintenant, ça va être pour toutes les situations là. Et pas simplement ma cousine, mon petit-fils, etc. Oui. Donc, pourquoi? Parce que l'enjeu aujourd'hui... L'enjeu majeur, c'est de répondre aux souffrances. Comme disent beaucoup de gens qui analysent la situation, en fait, nous ne supportons plus un certain nombre de souffrances. Ou nous disons, il y a des souffrances, il y a des moyens, on les applique. Ah oui, d'accord. Mais il y a peut-être un terme médian. Est-ce que les moyens sont bien d'ordre éthique? Voilà. Et puis après, quand on passe à la législation, qu'est-ce qu'on engendre dans le corps social, dans les relations, etc., quand on fait ça? C'est pas la même chose, vous voyez. Donc je pense qu'il y a différents plans, voilà. Il y a le plan de l'accompagnement individuel, il y a le plan de la réflexion éthique qui aussi se demande comment ça peut valoir pour tous, et puis il y a le plan juridique, après on fait des lois, etc. Mais il faut distinguer ces trois plans. Bien sûr, ils s'interpénètrent, mais ce ne sont pas les mêmes processus de réflexion ou les mêmes éléments qui sont en jeu. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça. Mais je regarde un peu ce que vous voulez.
Non, mais alors, moi, je ne suis plus au comité consultatif d'éthique, donc je ne peux pas te dire ce qui va se passer. Certains dans cette salle sont venus ce soir. Je ne sais pas s'ils ont un devoir de réserve ou pas, s'ils peuvent dire quelque chose. Je ne sais pas du tout comment, dans les délais aussi courts, ils vont pouvoir vraiment réfléchir. Bon, c'est tout. Mais c'est un procès d'intention que je n'ai aucune idée comment ça va se passer.
Je prends un exemple qui est celui de la fin de vie, qui, en principe, n'est pas dans la loi de bioéthique, ce qui d'ailleurs pourrait amener à discuter, mais là aussi, alors qu'on sent que certains voudraient profiter de l'occasion pour prendre le wagon de la révision de la loi pour remettre en discussion le principe d'euthanasie, on voit bien que la loi qui a été votée en 2016 n'est pas encore appliquée. Et les réanimateurs ont fait le test. 10% des citoyens ne savent même pas ce que veut dire directive anticipée. Ça serait intéressant, mais je ne veux pas le faire, de vous demander quels sont ceux parmi vous qui savent ce qu'est une directive anticipée en cas de fin de vie. Et deuxièmement, ce qui est plus préoccupant mais réel, c'est que c'est à peu près la même proportion de médecins, sauf chez les réanimateurs, naturellement, les hospitaliers sans doute, qui ne savent pas ce que veut dire sédation profonde et continue, et qui ne savent pas à quoi ça correspond. Donc cette loi, elle n'est pas appliquée encore. Et donc, je trouve que là où vous avez raison d'insister, c'est sur ce que les gens savent, ont compris, appliquent éventuellement. Mais ce n'est pas parce qu'on légifère qu'on s'imagine que le problème est réglé, ce que pensent beaucoup trop de législateurs d'ailleurs, de députés. Ça y est, on a voté. C'est pas parce qu'on a voté que le problème est réglé. Permettez-moi de vous dire que...
Autre question au fond là-bas.
Voyez, il faut aller voir au fond aussi un peu.
N'importe où ça...
Bonsoir. Le professeur Mattei souligne la nécessité de légiférer sur la scène internationale. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'exister aujourd'hui, comme nous y a invité Durkheim, qui est de montrer qu'il y a des limites à l'ingérence de la loi ?
Écoutez, ce que je sais simplement, c'est que nous essayons de vivre ensemble et qu'on ne peut construire une société qu'autour de valeurs qui sont partagées. Et qu'on peut évidemment imaginer une micro-société qui s'entendrait sur des valeurs précises et qui méconnaîtrait les valeurs d'à côté. Nous sommes au contraire dans un processus aujourd'hui prudent et contrariant à bien des égards d'ouverture. Et il est vrai que si on pouvait s'entendre sur des critères d'éthique, en réalité, plus j'ai avancé dans le domaine de l'éthique et notamment au niveau international, plus j'ai compris que l'éthique était à l'égal des droits de l'homme, des droits universels de l'homme, c'est-à-dire que c'est un idéal à atteindre, mais que les droits de l'homme en Syrie, les droits de l'homme au Soudan, les droits de l'homme au Yémen, vous voyez bien que ce n'est pas appliqué. Mais on sait que c'est un idéal vers lequel il faut tendre. Moi, je crois que l'éthique a quand même aujourd'hui posé d'une façon générale les grands principes vers lesquels il faut tendre. On n'y arrive pas forcément, mais bien sûr, l'ingérence de la loi. Alors je vais vous prendre deux exemples. Aujourd'hui, l'insémination artificielle pour femmes seules n'est pas autorisée en France. Eh bien, vous allez sur Internet, sur un site don de sperme, et vous pouvez trouver un donneur dont vous allez même choisir la photo et les caractéristiques. Il va venir chez vous, vous le payez, il fait sa petite chose et il s'en va. Et il vous laisse la petite chose et la seringue de Doliprane qui sert à injecter. La loi n'intervient pas. La chose se fait. Est-ce qu'on va la laisser faire ou faut-il l'encadrer? Faut-il comment faire? Donc, moi, je trouve qu'on est dans des situations aujourd'hui qui sont extrêmement compliquées. On ne peut pas tout contrôler. Qu'une femme prenne le Thalys, comme je disais tout à l'heure, pour aller faire une insémination à Bruxelles et qu'elle revienne enceinte et qu'elle accouche en France de son bébé qu'elle reconnaît, comment voulez-vous que la loi intervienne? Elle n'intervient pas. Elle essaie simplement d'essayer de réguler les questions de seuil, Père Saint-O, ou de limite, vous auriez pu utiliser le terme, je n'y crois pas, je crois à l'inverse au syndrome de la pente glissante. C'est-à-dire que quand vous fixez un seuil, on avait fixé par exemple l'IVG à 10 semaines, elle est à 12, le seuil est à 12. Ce qui fait qu'à 12 semaines, les femmes peuvent faire tous les diagnostics qu'elles veulent par Internet en envoyant et en recevant les résultats et demander une interruption sans même l'avis d'un médecin. Elles sont libres de le demander. On est donc effectivement dans un monde où il y a des limites, mais ces limites sont franchies et elles sont sans arrêt repoussées. Le diagnostic prénatal a été autorisé pour les couples qui avaient eu un enfant porteur d'une anomalie grave et incurable et qui voulaient agrandir leur famille mais ne pas prendre le risque. Et donc, finalement, ça avait plutôt un effet nataliste. Mais après, on est arrivé à des diagnostics de maladies beaucoup moins graves, de maladies que l'on pouvait traiter, et ainsi de suite. Moi, je crains beaucoup la pente glissante. C'est-à-dire qu'on fait un pas qui ne paraît pas déterminant, puis quelques temps après, on en fait un deuxième, et puis au bout de 10 ans, vous dites « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et vous regardez derrière, et vous vous rendez compte que vous y êtes venu sans vous en rendre compte, mais que si on vous avait indiqué le chemin vous conduisant là où vous êtes 10 ans après, vous ne l'auriez pas emprunté. Mais ça s'est fait.
C'est pour ça qu'il faut des seuils. Vous dites exactement la même chose.
Ils sont...
Au-delà du seuil, ça glisse. Ouais, c'est un toboggan,
donné,
là.
Je vous ai donné le seuil des 10 semaines qui est passé à 12. Et ainsi de suite. Je pense que les seuils sont dépassés. Sont toujours dépassés. Et dès que vous avez fixé une limite... Si vous fixez une limite, vous posez un interdit. Notre société, aujourd'hui, regarde l'interdit... Elle a une réaction qui n'est pas tellement sympathique. Les gens vous disent, pour les plus élaborés dans leur raisonnement, on m'a opposé ça, en disant, mais oui, ça existe les interdits, mais puisqu'on a une conscience, ils sont faits pour être transgressés. Naturellement, c'est comme ça. Donc, bon, je n'insiste pas, mais c'est pour vous dire, moi je suis très humble sur tous ces sujets, et plus le temps passe et plus je vois apparaître les problèmes, et plus je suis modeste. Alors, je ne vois pas comment on peut agir. Alors, pour finir de répondre à votre question, je prends l'exemple des États-Unis. C'est un État fédéral. Les règles de bioéthique, comme d'ailleurs de peine de mort, varient d'un État à l'autre. Ça ne les dérange pas, les Américains, d'avoir des lois qui diffèrent d'un État à l'autre. Bon, nous, on est beaucoup plus préoccupés. Moi, j'aimerais bien qu'en Europe, on arrive à des règles qui soient à peu près les mêmes.
Alors, peut-être pour la question du droit, moi, il me semble qu'on ne peut pas renoncer à l'ambition de l'universel. C'est-à-dire, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire une fois que l'humanité fait l'expérience qu'elle peut sombrer dans l'abîme, il y a des références, du coup, éthiques puis juridiques qui sont formulées et qui visent à garantir qu'on ne tombera pas dans l'abîme qu'on a frôlé ou dans lequel on est déjà tombé. Donc, alors après, vous me direz, l'universel, c'est bien beau, mais tout le monde ne l'admet pas, etc. Il y a des déclarations universelles des droits de l'homme, tout le monde ne souscrit pas. Il y a d'autres déclarations à prétention universelle, notamment la déclaration islamique des droits de l'homme, on ne sait pas ce que c'est, mais bon, voilà, des choses comme ça. Mais je veux dire on peut difficilement passer à côté d'une ambition de l'universel, même en tenant compte de toutes les variations culturelles, etc., parce qu'il arrive à un moment donné, il y a des principes fondamentaux qui font que la personne n'est plus une personne parce qu'elle est plus respectée pour ce qu'elle est, et tout le monde, quelle que soit sa culture, peut comprendre ça. Si quelqu'un prend mes biens, ça va pas. Si quelqu'un me tue, ça va pas non plus. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments, par exemple, respecter la dignité de quelqu'un, évidemment, ça peut être très variable suivant les cultures, mais il y a quand même dans l'expérience humaine commune des seuils. Voilà. Je suis tenace, vous savez, dans l'argumentation. Des seuils où quelqu'un dit non, on ne peut pas traiter telle catégorie de population comme ça. On n'a pas le droit. Par exemple, soins des migrants, on ne peut pas passer à côté de ça. Obligation du soin, on ne peut pas passer à côté de ça. Il y a une obligation éthique qui vient du tréfonds de l'humanité ou de l'expérience profonde de ce qui est en jeu dans le soin. On ne peut pas laisser des migrants comme ça, est-ce qu'ils viennent d'autres pays, sans un soin. Voilà. Obligation médicale du soin. À visée universelle. Donc, il y a encore de l'universel. Maintenant, on peut discuter. Hein, bon. Et puis, je reviens sur l'ambition de l'universel. Moi, je pense qu'on ne peut pas y renoncer dans la volonté d'être ensemble, en commun, notamment parce qu'il y a de plus en plus d'interactions. Donc, il y a un droit qui va s'élaborer. Et puis, il y a des seuils à franchir aussi au niveau du droit. Vous ne pouvez pas dire à la fois la GPA est par principe non éthique, ou bien dire, à certaines conditions, elle est éthique. Vous comprenez, il y a des choses qui sont un peu clivantes. C'est-à-dire, entre les gens qui disent...
Mais ce n'est pas une question de seuil, ça, c'est une question de principe. Indisponibilité, non patrimonialité, terminée.
Indisponibilité, c'est un seuil. Et quand on en...
Bon, écoute, on va sortir sur le... Non, mais attendez.
C'est un principe sur lequel est-ce qu'on peut transiger là-dessus? Non, voilà. Non, disons autrement. Est-ce qu'on peut transiger là-dessus et l'améliorer, faire des petites greffes à côté en disant dans certains cas ça marchera pas, ou bien c'est extrêmement ferme?
Non, mais Père Saint-O, je suis d'accord sur l'ambition universelle. J'ai, il y a déjà quelque temps, accueilli dans mon service de génétique un jeune médecin chilien, c'était dans les années, fin des années 80. Et je lui pose la question, parce qu'en plus il appartenait au tiers ordre franciscain. Et je lui dis, mais le diagnostic prénatal, vous faites comment au Chili? Il me regarde et il dit, mais nous on n'en parle pas, parce que de toute façon, ils meurent tous à la naissance. Et ça m'a montré que nous, avec la médecine que nous avons, qui réanime et qui traite la grossesse, allongez-vous, antispasmodique, etc., finalement, nous sommes pas tellement dans la loi naturelle. Et eux l'étaient. Mais nous, finalement...
C'est quoi la loi naturelle?
Eh bien, c'est-à-dire que la loi naturelle est la loi qui consiste à laisser se passer une grossesse, et quand l'enfant meurt à la naissance, on ne va pas faire tout ce qu'on peut pour le réanimer. Et donc, vous savez très bien que le principe d'Aristote est la loi de la médecine naturelle. Bon, bref, passons. Ce que me disait simplement ce médecin, qui n'était pas du tout, qui était très astucieux, il m'a dit, en réalité, ce que vous faites, vous, avec le diagnostic prénatal, c'est que vous corrigez ce que la sélection naturelle aurait fait sans vous, sans l'intervention de la médecine. Et quelque part... Moi, une ou deux fois, des parents m'ont dit, mais si vous n'étiez pas intervenu, il n'aurait pas vécu. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que de dire un seuil, parce que... Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de quand on réanime, à partir de quand on ne réanime pas. Bon, moi, j'entends ce que vous dites, parce que j'ai eu beaucoup de discussions aussi avec d'autres... théologien sur l'idée de la limite, avec Thierry Magnin notamment, de l'Institut catholique. On s'est un peu accroché sur la question de la limite. Moi, je pense que la limite égale un interdit, et que l'interdit, notre société n'accepte pas les interdits parce qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, qu'il faut explorer.
Non, mais c'est ça qui est difficile. Ça, tout à fait d'accord. Mais il y a des interdits fondamentaux, je ne marcherai pas sur l'empiètement du voisin, etc. Il y a quand même un certain nombre de choses qui font, sans lesquelles la collectivité n'est pas possible.
Voilà. Non, mais bien sûr.
Alors après, la recherche, il faut affiner, etc.
Sur le fond, on est d'accord, mais voilà. C'est la mise en œuvre qui est facile.
Et puis, l'Église n'a jamais souscrit à la loi naturelle au sens où vous l'entendez. Ce n'est pas ça, la loi naturelle. C'est une loi de la raison. Hein.
Oui, nous, on a plein de questions. Oui, parce qu'il nous reste... nous avons déjà dépassé l'heure... Je ne sais pas si elle est morale ou légale, mais on va se donner un quart d'heure supplémentaire. Mais donc, on prend trois questions à la fois et vous répondez chacun rapidement.
Rapidement, allez-y.
Oui, c'est bon.
Est-ce que la loi naturelle n'avait pas pour mission précisément de poser des seuils?
Ah non. Une autre question.
Alors, je voulais seulement savoir ce qu'on vous demande. On vous demande de produire à la fin un texte de loi proposé au gouvernement, parce que c'était comme ça que ça se passait avant. Pas de, peut-être de phraser pendant 6 mois, puis ensuite le gouvernement il fait ce qu'il veut, je ne sais pas. Et puis aussi, il y a un truc qui me gêne un peu. On ne parle plus. On parle de mariage pour tous, mais on n'en discute plus, la loi sur le mariage pour tous. C'est évident que la PMA, ça implique qu'on accepte le mariage pour tous, un peu la PMA pour les homosexuels. Enfin, c'est...
Troisième question. Il faut aller vers le fond de la salle, il y a des forêts de bras.
J'avais juste une petite question. Pardon ? Vous avez parlé avec humour.
Quand commence la vie ?
Vous avez parlé avec humour de la mamie-maman. Voilà. Alors, moi, je vais vous provoquer. L'espérance de vie a doublé en un siècle. Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez des papis-papas, qui est quand même un phénomène qui est fantastique et qui permet effectivement aux hommes d'avoir des enfants très très tard et de poser des problèmes à nos régimes de retraite.
Non, la question est assez simple. C'est quand même dans la procréation, le travail de l'homme est minimum. La femme va porter pendant 9 mois. Or, moi, je me souviens très bien de cette femme qui m'avait demandé ça. C'était après Antinori. Elle était venue me voir. Elle avait commencé le dialogue en disant « Je veux comme l'italien ». Alors, on avait à peu près avancé. Et je lui avais dit « Mais enfin, madame, vous n'avez pas d'ovocytes. Vous êtes ménopausée. » Elle m'a dit « Mais vous avez des embryons dans les congélateurs. » Je dis « Mais enfin, vous êtes ménopausée. Vous n'avez pas l'équilibre hormonal. » Elle me dit « Mais enfin, les traitements hormonaux, ça existe. » Et je lui dis, mais votre utérus, il n'a peut-être pas la force et la tonicité d'une femme de 25 ou 30 ans. Elle me dit, mais on me ferait une césarienne. et donc, elle avait réponse à tout. Et elle avait ajouté, cet enfant, je l'aurai tout le temps avec moi, etc., etc. Donc, ce qui fait la différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme, une fois qu'il a ensemencé, il n'a plus rien à faire, si je puis dire, sinon accompagner, accompagner naturellement. Mais la femme, elle porte et sont mises à l'épreuve ses muscles, ses articulations, son système osseux, et qu'avec l'âge, ce n'est pas de la même qualité. Il n'y a pas la même résistance, ce n'est pas les mêmes conditions. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis assez réservé sur la nouvelle mode qui consiste pour les jeunes femmes de 25 ans disant « je n'ai pas rencontré l'homme idéal, je voudrais garder mes ovocytes au congélateur, comme ça, si je le rencontre dans 10 ou 15 ans, eh bien, mes ovocytes seront jeunes ». Sauf qu'elle, elle ne le sera plus. Et que donc, sa physiologie ne le sera pas. Bon, bref, c'est pour vous dire quand même que ce n'est pas tout à fait le même rôle. Mais à l'inverse, une femme seule peut être inséminée, alors qu'un homme, que deux hommes seuls, ben là, ils sont bien embêtés.
Bon. Alors, les autres questions pour Bruno.
Non, alors, il y a trois questions. Je ne peux pas répondre à la question de la loi naturelle parce que, évidemment, en théologie catholique, la loi naturelle n'est absolument pas la loi biologique. Donc ça, il faut venir. Je peux vous m'entretenir avec vous. J'ai des cours, etc. là-dessus. Hein, voilà. Donc c'est une participation à la sagesse divine, à la sagesse éternelle de Dieu en tant qu'est le gouvernement. C'est une loi de la raison. Voilà. C'est pas la loi biologique.
Je parlais d'Aristote, moi. Parce qu'Aristote, la médecine aristotélicienne est une médecine.
Mais oui, mais c'est pas le sens de la loi naturelle au sens théologique. Bon.
Ah bon.
Alors. Premier point.
Non, mais
deuxième
c'est
point.
Bien, c'est animé.
Ben oui, c'est. Comme il y a un climat fraternel, on peut.
Absolument.
CF, ce que j'ai dit au début, n'est-ce pas ? Les conditions. Deuxième point, la question du mariage pour tous, etc. Alors moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. On peut très bien trouver des conditions sociales, politiques, juridiques, qui permettent à des personnes de même sexe de vivre ensemble durablement, etc. Voilà, ça, c'est une chose. Tout en posant autrement la question, mais qui se pose également pour les couples hétérosexuels, du tiers qu'est l'enfant. C'est pas la même chose. Évidemment, en théologie catholique, plus personne, enfin, c'est très compliqué de réfléchir sur l'homosexualité, on n'en trouve plus d'ailleurs, on ne sait plus qui réfléchit là-dessus. Bon, c'est une vraie question. Mais je pense qu'on peut favoriser socialement, juridiquement, des unions de personnes de même sexe, tout en disant que la question, à partir du moment où il y a un tiers, les questions se posent autrement, parce qu'il y a du tiers, précisément. Et c'est autour du tiers faible que se condensent les questions. C'est là que se condensent les questions. J'ai dit le tiers faible qui est l'enfant, mais qui est la personne âgée, etc. C'est là l'épreuve de vérité. C'est le tiers faible. Et c'est là où se pose l'enjeu médical. Donc, vous voyez, on peut ne pas paniquer, un mariage pour tous, c'est la fin du... Bon, c'est pas la fin du monde, bon, voilà. Donc, contribuer à organiser ça politiquement, juridiquement, tout en disant, attention, quand il y a du tiers...
C'est le problème de l'enfant.
Quand il y a du tiers, la question se pose éthiquement et juridiquement autrement. Voilà. Ça, en tout cas, ce serait ma ligne d'argumentation. C'est pas la même chose.
Les questions du fond de la salle, pour que...
Merci. Je voudrais profiter de la présence du professeur Mattei justement pour mettre l'emphase sur une des phrases dans le dialogue avec le professeur Nizan où vous parliez donc de sélection entre guillemets. Donc je lis ces mots. Chaque couple qui voudra un enfant mettra des embryons en étude génétique. On choisira parmi ceux-ci celui qui a les meilleures caractéristiques. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que vous parlez d'une conférence citoyenne. Il se trouve que la conférence citoyenne sur les vaccins, il y avait un groupe de gens qui étaient un petit peu instruits et d'autres qui étaient tout venants. Ils ont pris une conclusion qui n'a absolument pas été respectée par le gouvernement suivant. Là, si un monsieur professeur de gynéco dit « on choisira ceux qui ont les meilleurs donc les meilleures caractéristiques, alors que lui, il collabore dans un CHU prestigieux, il connaît la génétique, comment on sélectionne? Alors si lui dit ça, que diront les gens qui ne connaissent rien à la génétique?
Bon, d'abord, il ne sera pas lui dans la conférence citoyenne, car on prend dans les conférences citoyennes des gens qui n'ont pas cette culture-là et qui n'ont pas l'autorité de la compétence. Deuxièmement, j'ai des réserves sur les conférences citoyennes parce que c'est souvent le lieu où s'expriment des minorités agissantes et qui confisquent le dialogue. Vous parliez de vaccination. Moi, j'ai eu cette expérience avec les vaccinations comme ministre. J'ai eu l'expérience des relais de téléphonie mobile, des organismes génétiquement modifiés, de la fin de vie, etc. Et ça, c'est généralement pas bien terminé parce qu'il a fallu arrêter les invectives des uns et des autres. C'est un peu différent sur les états généraux. Je parle des conférences citoyennes. Alors ensuite, ce que dit Israël Nizan, que je connais bien, d'abord, il exprime très exactement ce que disait le père Bruno Santos, c'est-à-dire qu'il est gynécologue obstétricien et il veut satisfaire les femmes qui souffrent et qui sont en face de lui. Et il ne se pose pas d'autres questions. En revanche, il évoque, et je pense qu'il a raison, c'est la pente glissante, quand on pourra avoir des enfants comme on veut, on choisira les spermatozoïdes qui conviendront, qui auront été congelés, qui seront dans des boîtes, etc., avec, pas le nom, c'est anonyme, mais les caractéristiques physiques. Et puis après, on peut faire un diagnostic préimplantatoire ou diagnostic prénatal, et on ira vers le choix de celui qui correspond le mieux. Sauf que ce n'est pas toujours ce qui arrive, même si on a choisi. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que je pense que d'ici 20 ans, on fabriquera des gamètes avec des cellules souches prises de la peau de quelqu'un. On arrivera parfaitement à dédifférencier les cellules. Et donc je pense que c'est ce qui nous pend au bout du nez dans les 20 ans qui viennent. J'ajoute que dans 20 ans, il y aura un utérus artificiel probablement. On a déjà, alors ça a été évoqué il y a 10-15 ans par le professeur Atlan, mais les derniers travaux faits sur des animaux, en l'occurrence des agneaux, il y a un utérus artificiel où les agneaux qui naissent prématurés, non viables, sont mis dans cette poche liquidienne dans laquelle ils sont nourris comme il convient, et ils arrivent à terme, et ils naissent de la poche, et ils se développent. Donc, moi, je pense que nous ne sommes pas au bout
de nos interrogations sur la procréation. Il faut bien comprendre ça. Là, on est dans une étape intermédiaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment affirmer nos personnalités, nos valeurs, ce que l'on veut, et donner à la culture et à l'amour qu'on peut apporter à un enfant tout ce qu'on est capable de lui donner. Après, le reste, on peut. Évidemment qu'on va s'y opposer. Moi, mon avis, ils le savent au comité d'éthique, que je ne suis pas favorable à l'extension sociétale. Mais d'abord, le comité d'éthique de la faculté, de l'Académie de médecine n'est pas habilité pour donner un avis sociétal. Et sur le plan médical, la réserve que vous venez de faire, elle vient bien du tiers fragile, vulnérable de l'enfant. Et qu'on n'a pas le droit de prendre un risque vis-à-vis d'un enfant dont on ne sait pas quel est le devenir sans l'image même d'un père. Bien sûr, on me dit qu'il y a des enfants sans père, on le sait, des pères qui meurent en accident de voiture après que la femme soit enceinte, etc., etc. Mais il y a un père dans l'histoire familiale, il y a une référence. Là, il n'y aura pas de père biologique, pas de père social, pas de père historique, c'est-à-dire pas d'image paternelle. Et je ne suis pas certain que ça soit la meilleure façon de faire grandir un enfant. Voilà.
Bien, ben nous sommes arrivés au terme de ces débats passionnants et de visions l'une plus optimiste, l'autre un petit peu plus pessimiste se sont fraternellement affrontés et chacun maintenant est appelé à juger. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau mardi d'éthique publique le mardi 6 mars. Hein, donc dans oui, quatre semaines et ce sera un débat organisé avec le CERAS, le Centre d'études et de recherche des Jésuites en action sociale. Le thème n'est pas encore tout à fait précisé, mais ça touchera aux questions sociales. Voilà.
Puis vous pouvez suivre des cours de bioéthique pour apprendre ce qu'est la loi naturelle, etc. au Centre Sèvres. Voilà, vous prenez le programme du département éthique biomédical, n'hésitez pas. Il y a des articles dans la bonne revue études de septembre 2017 sur la question de l'assistance médicale à la procréation. Vous trouverez ça à la sortie. Voilà, merci beaucoup.
Alors, t'es content?
Oui, c'est intéressant.